Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, telles que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidées par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux, Femmes des Territoires pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, réseau business et sororité pour les dirigeantes et Bouge ton groupe pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs qui sont des locomotives de l'impact et de la transition écologique. Deux entrepreneurs qui se sont appuyés sur la tech pour permettre à chacun d'être aussi acteur et actrice de ce changement, à la fois nécessaire et positif. L'une grâce à la lutte contre le gaspillage et l'autre en utilisant au mieux notre argent. Bonjour Lucie Bache.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Too Good To Go, l'appli anti-gaspi vertueuse qui permet d'une part aux commerçants en grande surface de ne plus jeter leurs produits alimentaires non vendus et aux particuliers de récupérer ces invendus à tout petit prix au moment de la fermeture. Le modèle économique est simple, 1 euro qui revient à chaque transaction à Too Good To Go. C'est donc une solution qui allie deux sujets majeurs, le pouvoir d'achat et la transition écologique. En France, chaque année, 10 millions de tonnes de produits alimentaires finissent à la poubelle. Et pour agir, le gouvernement a notamment lancé un label anti-gaspillage pour les commerçants. Aujourd'hui, Too Good To Go, ce sont des chiffres vertigineux. 1200 collaborateurs dans 17 pays, 75 millions de consommateurs et 3 repas sauvés par seconde. En France, Too Good To Go, qui a été lancé en 2016, est utilisé par 200 000 commerçants, 13 millions de personnes, dont 1 million de Français quotidiennement. Votre chiffre d'affaires est aligné sur le nombre de repas sauvés, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes également coprésidente du fonds de soutien aux producteurs afin de travailler sur toute la chaîne alimentaire. Bonjour Maud Caillot.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Gringot, une néobanque verte pour mettre la finance au service de la transition écologique et aussi inspirer le secteur bancaire pour qu'il change ses pratiques d'investissement et qu'il pivote ceci des énergies fossiles comme le charbon, le gaz, le pétrole vers les secteurs à impact. Une néobanque, c'est une nouvelle génération d'acteurs bancaires qui sont notamment entièrement dématérialisés. Chez Gringot, on peut donc ouvrir un compte courant, détenir une carte classique qui est d'ailleurs faite en bois de cerisier. Et à chaque utilisation, on va suivre les émissions de CO2 de nos dépenses et on va générer un don envers des projets de reforestation, de dépollution, de développement de l'énergie renouvelable, par exemple. Gringot, c'est aussi de l'épargne pour financer les grands piliers de la transition écologique et énergétique. Et un compte chez Gringot revient à 6 euros par mois. Lancé en juin 2022, vous avez déjà 12 000 clients, 30 collaborateurs et un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Ensemble, Maud Caillot, Lucie Bache, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Lucie, Maud, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours. Puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Lucie Bache, on commence avec vous. Vous grandissez à Paris avec une mère avocate, un père médecin. Vous obtenez un bac S mention très bien. Puis vous réalisez une prépa et une formation d'ingénieur à Centrale Lille. Votre premier moment clé, vous travaillez alors chez Nestlé. Parcours assez classique, Vous découvrez l'ampleur du gaspillage, notamment sur une ligne de production d'une friandise assez connue. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce moment-là où vous ouvrez les yeux, Lucie ?
Oui, c'est ça. C'est vrai que j'avais un peu suivi les rails de la société et je m'étais jamais trop posé de questions, en fait. J'avais essayé de garder toutes les portes les plus ouvertes possibles parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Et finalement, parce que je suis passionnée par le système alimentaire, je me suis retrouvée assez naturellement chez Nestlé. Et j'avais eu la chance d'être prise dans un graduate programme qui nous permet aux futurs jeunes dirigeants de l'entreprise de faire plusieurs expériences pendant les deux premières années. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir plusieurs systèmes de production. Donc, j'ai commencé par une usine d'embouteillage d'eau. Donc, on faisait des bouteilles d'eau en plastique. J'ai fait de la nourriture pour animaux, pour chiens, chats, la nourriture sèche et la nourriture mouillée. Donc, je vous laisse penser aux odeurs.
Avec les ouvriers sur la chaîne.
Exactement. Donc, j'avais une charlotte sur la tête. J'avais des chaussures de sécurité, des boules qui hissent. Et j'habitais même à l'époque sur le parking de l'usine parce qu'on avait des logements de fonction réservés justement à ces futurs cadres dirigeants. Et donc j'ai eu le plaisir, moi petite parisienne que j'étais, de me retrouver dans des petits villages paumés au milieu de l'Angleterre. Et pendant deux ans, du coup, j'ai fait le tour des différentes usines de production. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pris conscience de comment est-ce qu'on produisait de l'alimentation aujourd'hui, de à quel point c'était finalement totalement déconnecté du rêve que j'avais de produire de l'alimentation et de produire ce qu'on mettait dans notre corps au quotidien, en fait. Et donc, c'est un soir, en quittant l'usine et donc en traversant le parking pour rentrer chez moi, que je me suis dit que j'étais en train de mettre tout mon temps, toute mon énergie, tout mon talent, si modeste soit-il, au service d'un système que je cautionnais pas du tout, en fait.
Parce que vous venez de voir justement un gaspillage pas possible au sein de l'usine.
Ouais, en fait, moi j'étais responsable d'amélioration continue. Donc c'était vraiment comment est-ce qu'on s'assure que la chaîne de production, elle tourne le plus vite possible, le moins cher possible, et qu'on améliore tout le temps ce process. Mais uniquement avec des considérations financières de finalement le but c'est de produire le plus de produits possible, le moins cher possible. Et à aucun moment on se disait mais est-ce que ça fait sens ce qu'on fait ? Et moi souvent je faisais des projets d'amélioration qui finalement nous amenaient à gaspiller plus, mais finalement, la ligne tournait plus vite, donc on diminuait le coût marginal de chaque produit et donc on était très contents et on célébrait le succès. Et en fait, je me rappelle même d'une salle entière qui était remplie de KitKat, justement, qui avait des défauts. Donc ça allait de, il y a une bulle d'air sur un des quatre doigts de KitKat, il y a le packaging, il a été mal scellé, donc on voit un peu de la bande argentée qui devrait être à l'intérieur, au final, on la voit de l'extérieur. Et donc tout ça, en fait, ça nous coûtait moins cher de les mettre à la poubelle que de les réemballer. Et donc, on décidait juste de jeter ces produits.
Et moi, j'avais les donner
Non, moi, j'avais même demandé est-ce qu'on ne peut pas les donner aux salariés, par exemple. Et finalement, c'était impossible parce qu'on ne voulait pas qu'un KitKat qui n'est pas une qualité parfaite puisse sortir de l'usine. Et donc, en fait, moi, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer à faire des projets qui, finalement, nous font gaspiller davantage. Donc, c'est là un peu que j'ai eu le déclic et que je me suis dit, il est peut-être temps de prendre mes jambes à mon cou et de mettre mon énergie au service d'une cause qui m'importe. Et d'où effectivement la prise de conscience du gaspillage alimentaire.
Vous êtes partie ?
Ouais, j'ai quitté, j'ai démissionné, j'avais à peine 24 ans à l'époque. Et j'ai fait un peu ma crise de la quarantaine avant l'heure en me disant que, enfin, si même moi je le faisais pas malgré mes diplômes, malgré le fait de pas avoir d'enfants, de pas avoir de crédit, de pouvoir retourner chez mes parents, qui allait le faire en fait ? Et que c'était plutôt maintenant, j'avais jamais redoublé, je me suis dit c'est maintenant que je prends un an pour faire ce qui me tient vraiment à cœur et pour mettre mon temps au service de ma passion qui était celle d'un système alimentaire plus cohérent en fait. Donc voilà, je l'ai fait et je me suis dit je me donne un an, 7 ans plus tard j'y suis toujours. Donc comme quoi c'était un bon pari à ce moment-là.
Et vous donnez souvent deux chiffres en rapport avec le gaspillage, 40% de tout ce qui est produit est jeté et le gaspillage est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est gigantesque.
Exactement, et c'est vrai que quand j'ai pris conscience de ça je me suis dit mais c'est pas possible en fait, je peux pas continuer à accepter ça et faire mon métier dans ce système-là, il faut aller construire un nouveau système alimentaire et c'était tout l'enjeu de
Maud Caillot, à vous. Alors, vous êtes bourguignonne, vous avez grandi à Dijon, vous êtes franco-iranienne et vous avez, vous, réalisé une classe prépa, puis une école de commerce, école de management de Grenoble. Et ensuite, vous entamez votre carrière dans le luxe. Et comme cela ne vous convient pas, en 2019, vous partez en stage à New York, un peu sur un coup de tête. Et là, votre vie va changer grâce à une discussion sur un rooftop, donc le toit d'un immeuble, à propos de manger ou non de la viande.
C'est ça, exactement. Alors moi, je me suis retrouvée finalement, et aujourd'hui j'en fais ma vie, la lutte contre le changement climatique et la chute de la biodiversité. Mais il faut savoir que jusqu'à assez tardivement dans ma vie, jusqu'à mes 24 ans, et aujourd'hui j'en ai 28, j'avais
un âge commun entre vous deux du coup. À 24 ans, toutes les deux, vous avez eu cette prise de conscience.
C'est ça, exactement. En fait, j'entendais plus de degrés dans le fond avec, évidemment, les médias, les nouvelles et tout. Mais je me disais très simplement, bon, bah, 2 degrés à Dijon, on va passer de 18 à 20 degrés, on aura une piscine. Voilà, vraiment, très sincèrement, c'était mon raisonnement. Alors, je suis pas quelqu'un d'extrêmement, avec un QI immense, je pense pas, mais je pense pas non plus être quelqu'un de très en dessous de la moyenne. Donc, je pense que si je me fais cette réflexion, on est beaucoup, et
très
on
nombreux.
Était beaucoup, on est peut-être encore beaucoup à se la faire. Et donc, j'arrive à New York en finance une proposition comme ça. Je me dis, bah voilà, je sors du luxe, ça m'a pas du tout plu. Mes rêves se sont un peu brisés à la réalité aussi. Je cherche un peu ma voie. J'ai une proposition qui entre et qui va évidemment tout un package salarial et tout très avantageux. Donc, je me dis, bon, on va saisir l'opportunité puis on va voir où ça nous mène. Et à ce moment-là, je rencontre la personne qui va être mon futur associé, Andrea, sur
Andrea Ganovelli,
sur un de ces toits terrasses dont Brooklyn a le secret. Et on est en train de se faire un barbecue, comme tout le monde se fait des barbecues le dimanche après-midi. Et lui est là à dire absolument, je ne veux pas de viande, je veux un champignon. Et ça paraît parfaitement anecdotique. Hein. Mais je suis là, mais personne ne te regarde, tu vois. Parce que moi, j'avais vraiment l'impression que ce côté vegan, végétarien et tout, c'était un petit peu voilà, pour ennuyer les gens, un peu militant. J'avais mes meilleures amies étaient véganes. Je faisais partie de ces gens qui se moquaient d'elles, vraiment. Bête.
Donc là, vous lui avez dit, bon...
Et là, je disais, mais personne ne te regarde. Fais ta vie, tu vois, mange ta côte de bœuf. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, non, mais j'ai pas été tout le temps très smart, hein, je le conçois. Et donc là, il m'explique, non, mais c'est un peu plus compliqué que juste avoir une piscine les 2 degrés. Lis, ouvre un rapport et regarde. Et donc, j'ai commencé donc à m'informer, à regarder, à ouvrir les rapports, notamment du célèbre organisme le GIEC, donc un groupe d'experts intergouvernementaux qui résume tous les papiers scientifiques sur la question. Et quand je regarde les premières conclusions et choses comme ça, sur justement le changement climatique, ma première réaction, je me souviens très bien, c'est pas vrai. C'est pas possible. On a des personnes que je pense infiniment plus brillantes que moi à la tête de l'État, de tous les gouvernements, qui ont la responsabilité des peuples, hein, pour qu'ils vivent de la meilleure manière qui soit. Et on est en train de me dire dans ces papiers qu'on va avoir une catastrophe d'un niveau dont on n'a pas du tout conscience. Et je me dis, si c'était vraiment ça, on serait tous en train de changer et on n'aurait que des gouvernements qui essaieraient de changer les choses. Donc ma première réaction, ça a été un petit peu ce déni en mode, c'est pas possible, on nous ment. Et puis ensuite, quand tu cherches encore, quand on cherche encore un peu plus profondément...
Vous écoutez un podcast ?
Ouais, on se rend compte que c'est vrai. Et je me souviens très bien, c'est au détour d'un podcast d'Aurélien Barraud, donc qui est un astrophysicien...
Très engagé.
Très engagé, enfin qui essaye, lui, d'alerter et de vulgariser au maximum justement ce qui est en train de se passer. Et il faisait une sorte de devinette à son intervieweur. Je vais vous la faire, Marie. Et
il faisait... Mais je connais la réponse. À
c'est vrai. Ah mince.
Vas-y,
alors
je
à
la
toi.
Connais pas.
Vas-y. Donc il parlait de la dernière ère glaciaire. Donc pour nos auditeurs et auditrices, le climat c'est un cycle en effet. Ça oscille entre période glaciaire et interglaciaire. Actuellement on est en période interglaciaire et la dernière ère glaciaire, le dernier pic c'était il y a 20 000 ans.
Avec les mammouths.
C'est ça. Des mammouths, 2000 mètres de glace au-dessus de nos têtes, littéralement. Donc un glacier qui recouvre toute la France, l'Angleterre. On pouvait marcher jusqu'à l'Angleterre à pied sec et le niveau des océans et des mers étaient de 100 mètres plus bas. Et il faisait deviner à son interlocuteur ou interlocutrice de combien de degrés la Terre s'était réchauffée en 20 000 ans, donc, pour faire fondre 2000 mètres de glace, remonter de 100 mètres le niveau de la mer et faire en sorte que on puisse enregistrer aujourd'hui avec juste un petit pull et un grand soleil dehors et sans risquer de mourir de froid si on met un pied dehors.
J'ai pas trop envie de la réponse, mais...
C'est assez peu intéressant. Moi, je me souviens, je me dis, bon, il faisait moins 40 à l'époque, il fait plus 15 maintenant, 50 degrés, tu vois. Et là, il lâche 5 degrés. Et alors, 5 degrés en 20 000 ans, ça, c'est le rythme géologique. Là, on est en train de parler de plus de degrés, c'est a priori compliqué. Plus 3, plus 4, voire plus 5 degrés en 300 ans. C'est immense. Et donc là, on se dit, bon, d'accord, il va faire plus chaud, on va avoir la clim, bon, choses comme ça. Et on ne se rend pas du tout compte de l'impact et de tout l'effet domino que ça va avoir. On parle justement de l'alimentation. En France, on n'est pas prêt à avoir des étagères dans les supermarchés vides. Mais c'est aussi ça qui est en train de se passer et qui va se passer si ça se réchauffe. Et du coup, les rendements agricoles, évidemment, vont tomber. Aujourd'hui, on importe beaucoup de choses aussi en France. Mais quand ces pays-là vont aussi avoir moins de blé ou de récolte, ils vont les garder pour eux et c'est normal. Donc ça va être évidemment une instabilité sociale immense, donc une instabilité politique immense, donc une instabilité économique. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de me dire « Ok, je veux lancer mon entreprise. Pourquoi est-ce que j'ai pu le faire aussi ?» Parce que tout est extrêmement stable, parce que je sais que demain, je pourrai me nourrir, je sais que demain, mes parents ont encore un métier, je sais que tout sera encore là, a priori, demain. Et ce qui va arriver avec ce réchauffement, c'est qu'on va retomber dans un moment dont on a parfaitement perdu l'habitude, puisqu'on n'a jamais vécu ça, nous les personnes qui vivons sur Terre aujourd'hui, d'un moment où tout peut éventuellement s'effondrer.
D'instabilité et voilà. De chaos. Et du coup, vous constatez aussi, en faisant ces recherches, que la banque, la finance, est un des leviers principaux pour diminuer nos émissions carbone. Émissions carbone qui sont responsables du changement climatique.
Je me suis dit, du coup, j'avais pas d'industrie de cœur en particulier. J'avais vraiment à cœur d'essayer d'avoir le plus d'impact en termes d'intensité d'impact, mais aussi de rapidité d'impact. Donc de l'impact qui ne serait pas là d'ici 100 ans, mais maintenant. Et donc je regarde l'industrie du transport, l'industrie de la mode, l'industrie, enfin toutes ces choses-là. Et je me rends compte en fait qu'il y a toujours un fil d'Ariane qui traîne dans mes recherches. Et quand on remonte, on tombe toujours sur la même chose, à savoir le secteur financier.
L'argent.
Exactement, l'argent. Et alors je me suis sentie un peu bête quand j'ai commencé, parce que je me suis dit, c'est vrai, l'argent c'est le nerf de la guerre. C'était vrai il y a 2000 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Mais je n'y avais pas du tout pensé. Et en fait, on n'y pense pas forcément que son argent a un impact. On a cette image inculquée par Picsou ou Lucky Luke de nos banques qui gardent en lingot d'or nos équivalents de nos petites économies, alors qu'évidemment pas du tout, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous allez braquer une banque, il n'y aura pas beaucoup de liquidités à prendre ou de lingots, hein. Tout est dématérialisé. Et en fait, l'argent, notre argent, directement ou indirectement, a une vie incroyable et permet de financer beaucoup de choses, mais justement, aujourd'hui, des choses qui sont notamment les énergies fossiles. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que toutes les personnes qui dirigent les banques sont climato-sceptiques ou ont envie de la fin de l'humanité ? A priori, enfin moi, je pense pas. Mais je pense que ce sont de tels paquebots aujourd'hui qui ont été construits pendant les révolutions industrielles. Donc, à un moment où il fallait, et leur seule mission était de financer le charbon, de financer le pétrole, de financer le développement de l'économie. Et depuis quelques décennies maintenant, c'est vrai, on sait que c'est plus du tout ce qu'il faut financer, mais on peut voir ce gros paquebot où la barre, soit elle est enrayée, soit personne n'est aux commandes.
Et donc vous imaginez créer Gringot, une néobanque, vous pensez la lancer en 3 mois, et vous avez mis 2 ans.
Ouais. Alors, on n'avait jamais été aussi optimiste que 3 mois, mais on pensait quand même, 6 mois, 1 an. Et on a pris bien 2 ans. Et au tout début, on s'est dit très naïvement qu'on allait changer les banques. On a été voir les dirigeants, on a été voir tout ça. On a réussi. Bon, on s'est fait recaler très, très fortement, évidemment, parce qu'on était personne à l'époque. Et on s'est dit, du coup, on va pas être juste dans l'opposition, mais aussi la proposition pour essayer de faire une alternative. Et en effet, ça a pris beaucoup de temps de développer les premières pierres de la future banque Gringot.
Lucie Bache, Maud Caillot, je vous propose d'échanger sur vos parcours d'entrepreneurs en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risques maximales, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés et ce que vous avez dû défendre. Nous clôturons ce podcast par un portrait chinois. Je sais que vous vous connaissez toutes les deux. Est-ce que vous pouvez partager en quelques mots votre rencontre? Comment vous êtes rencontrées?
Alors, moi, j'ai en fait très naturellement entendu parler de Gringot parce que ça a quand même commencé à faire des petits, à faire du bruit. J'étais tout à fait consciente. Enfin, moi, j'ai vraiment repensé ma consommation dans son ensemble. À la fois, je suis végétarienne depuis maintenant presque 10 ans parce que j'ai pris conscience de l'impact de manger de la viande. En fait, quand j'ai regardé des documentaires comme Cowspiracy, comme Seaspiracy par la suite, forcément, ça fait froid dans le dos. Et une fois qu'on sait, on a du mal à continuer à le faire impunément. Pareil, j'achète plus de vêtements neufs. J'ai essayé de changer de fournisseur d'énergie. Ça m'a pris 2 ans parce que c'était compliqué de trouver des fournisseurs d'énergie qui acceptent encore de nouveaux clients. Et très clairement, continuer à avoir mon épargne à des banques comme la Société Générale, pour ne pas les nommer, ou des banques classiques qui investissent encore et soutiennent des projets qui sont juste des bombes climatiques, ça m'allait plus du tout. Et donc, il me fallait forcément regarder un peu des banques responsables. Et donc, je suis tombée très rapidement, je dois dire, sur Gringot. On a même demandé à Maud de venir faire un petit inspiring chat, comme on les appelle chez Too Good To Go, à l'équipe. Et ça en a convaincu plus d'un.
Donc, un témoignage inspirant.
Exactement. Et puis, je crois qu'un jour, c'est Maud qui m'a contactée. J'avais regardé aussi un de ses TED Talks et je me suis dit, waouh, franchement, elle assure avec à la fois, je pense, une vision très inspirante, mais aussi des exemples très concrets et des petites anecdotes, comme elle vient de nous en faire une ou deux, qui sont très parlantes, je pense, et qui donnent envie de s'engager. Et donc, du coup, rapidement, on s'est dit, allez, faut qu'on se rencontre en vrai. Et donc, on a pris un café juste à côté de chez moi, où on a vu qu'on avait plus d'un sujet en commun.
Donc, à côté de chez moi aussi, du coup.
Notamment. Et donc, après, on a eu l'occasion de se revoir à plein de moments. Et c'est vrai que, on partage, je pense, des valeurs très communes. Et puis aussi un caractère assez bien trempé, on va dire, pour pouvoir vraiment faire avancer les choses et être en alignement entre nos valeurs personnelles et ce à quoi on passe notre temps au quotidien, quoi.
C'est ça. J'avais été faire un petit déjeuner, mais elle était pas là. Et ça, c'était vraiment au tout début de Gringot, ouais. Parce qu'on disait aux gens, ouais, on sort dans 2 mois, pas du tout. T'es sorti, du coup, 1 an et demi plus tard. Et ensuite, donc Lucie ouvre son compte, mais sans, on ne se connaissait pas du tout à l'époque. Et en fait, les équipes compliance et conformité voient passer son nom. Et l'équipe est genre, waouh, ouais, on a Lucie Bache qui ouvre son compte et tout. Et alors je suis là, ah ouais, trop bien, on va prendre un café et tout. Genre, donc je lui envoie un message et je me suis dit, jamais je vais avoir de réponse. Et en fait, elle m'a répondu, bah ouais, go. Et je suis là, faisons ça.
On va commencer toutes les deux par un partage d'une opportunité, parce qu'on a toutes et tous des opportunités qui passent devant nous, et parfois on les saisit pas, parfois on les saisit. Donc le partage d'une opportunité que vous avez su voir et que vous avez saisie. Lucie, on commence avec vous, c'est au moment de la constitution de Too Good To Go. Alors vous aviez l'idée, vous aviez pas encore la marque, pas encore créé l'entreprise, vous étiez à ce moment-là en Scandinavie pour des raisons personnelles. Et là, vous en parlez autour de vous et vous découvrez que vous êtes plusieurs à avoir la même idée. Et qu'est-ce qui se passe ?
C'est ça. Je pense que entreprendre, c'est savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et nous, on en revient à la constitution même de Too Good To Go, puisqu'effectivement, j'avais cette... En fait, quand j'ai quitté Nestlé, après, on se retrouve un peu à naviguer dans un grand bain et on a toujours la question de « Et toi, du coup, tu fais quoi dans la vie ?» Et moi, c'était toujours un peu compliqué de répondre. Et donc, ce que je faisais, c'est que je pitchais le concept de Too Good To Go en disant « J'essaye de monter une boîte qui permettrait à tout le monde de s'engager concrètement contre le gaspillage alimentaire. »
En quelle langue ?
En anglais et norvégien. Je baragouinais un peu de norvégien. Et donc, j'explique que je cherche des développeurs, puisque j'ai moi-même essayé, en reprenant le site du zéro, et en me disant, après tout, je suis ingénieur, de coder l'application. Et très rapidement, je me rends compte que c'est pas là que je vais apporter le plus de valeur ajoutée. Et donc, je cherche des cofondateurs qui savent coder. Et en fait, très rapidement, je découvre qu'il y a des gens qui sont en train de justement coder exactement la même chose que ce que j'ai en tête. Et donc, forcément, ma première réaction, c'est merde, j'ai déjà des concurrents avant même d'avoir commencé. Et puis finalement, je vais à une conférence qui s'appelle Collaboration is the new competition.
Donc la collaboration est la nouvelle forme de compétition.
De concurrence, exactement. Et en fait, tout le thème de cette conférence, c'est de se dire quand on vise l'impact, on a plutôt vocation à faire les choses les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres. Et je me dis, oui, bien sûr, ça coule de source. En fait, pourquoi est-ce que je vais me mettre en concurrence avec des gens qui ont sûrement les mêmes valeurs que moi et le même objectif que moi ? Finalement, est-ce que notre seule concurrence, c'est pas juste la poubelle ? Et qu'en fait, tout ce qui peut être récupéré, ça le sera si on fait les choses les uns avec les autres. Et donc, tout simplement, je leur passe un coup de fil et je leur dis, moi je suis en Norvège, je suis en train de lancer la même solution, est-ce que ce serait pas intelligent qu'on le fasse ensemble ? Et eux, à l'époque, ils sont au Danemark, ils disent, mais c'est parfait, bien évidemment, le Danemark, c'est 6 millions de personnes, on n'a pas vocation à s'arrêter là, donc si toi t'es en Norvège, que nous on est en Danemark, vas-y, lance. Nous, on a d'ailleurs une des personnes de l'équipe qui est norvégienne, donc rencontrez-vous et ce serait top de faire les choses ensemble. Et c'est comme ça que démarre en fait l'aventure Too Good To Go, où eux en plus avaient l'idée de le faire uniquement sur les buffets à volonté. C'est vrai qu'au Danemark, il y en a beaucoup. Et en fait, eux, dans leur tête, Too Good c'était un consommateur qui se présente à la fin de l'heure d'ouverture du buffet et vient récupérer les produits. Et moi, en bonne française que j'étais plutôt partie sur les boulangeries, avec le boulanger qui, à la fin de la journée, jette les viennoiseries, les baguettes et les gâteaux restants. Et donc, finalement, on s'est dit, mais en fait, on peut le faire sur tout. Et c'est aujourd'hui la force de Too Good To Go. On a effectivement 200 000 commerçants dans le monde et ça va vraiment du buffet au marchand de sushi, à la boulangerie, au supermarché. Et aujourd'hui, on a réussi à se développer partout. Et ça, c'est vraiment tomber de saisir l'opportunité d'avoir des gens qui ont la même idée plutôt que de se dire mince, c'est un problème. C'est comment est-ce que tu tournes un problème en une solution, justement. Et je pense que ça, on l'a répliqué à différentes échelles chez Too Good To Go et c'est ce qui a fait la force de notre action.
Ouais, vous étiez dans plusieurs pays, l'Allemagne aussi, l'Angleterre.
Exactement.
8 cofondateurs à aller avec votre fichier Excel taper à la porte des commerçants pour les convaincre. Hein. Vous êtes allé à la main au début, Lucie.
Bah, oui, complètement. Et donc, très rapidement, en fait, ça a permis à Too Good To Go d'avoir un ADN international dès le début, puisque en 6 mois, on était dans 6 pays, plutôt que de se dire on va faire les choses dans un pays et après, peut-être 10 ans plus tard, lancer la même chose. Et le gaspillage alimentaire, malheureusement, c'est un problème qu'on partage tous dans le monde entier. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir une solution qu'on pouvait porter à l'international dès le début.
Et vous, Maud, l'opportunité que vous avez saisie, c'est au moment de votre première levée de fonds. Vous n'avez aucune expérience dans la banque, dans la tech, vous êtes jeune. Pas connu. Andrea, votre cofondateur, c'est à peu près la même chose. Il faut lever des fonds. Vous enchaînez les refus jusqu'à ce qu'un ami vous envoie un mail.
Oui, c'est ça. Alors, j'avais fait des études, donc je connaissais un petit peu la finance, mais en effet, j'avais jamais vraiment.
Vous n'êtes pas du milieu.
Exactement. Mais je pars du principe qu'on peut tout apprendre. Donc ça aide. Et en effet, donc, le truc pour créer une banque, enfin une néobanque, on ne peut pas faire un petit, ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, donc le produit minimum viable.
Donc un site internet de minimum, c'est ça, ou une appli minimum?
Non, nous, notre Minimum Viable Product, c'était quand même un produit bancaire. Donc on ne peut pas le faire sur 2 restaurants. Et 3 bornes. Nous, directement, ça doit être sur le réseau international, dans tout le monde entier. La carte, elle doit marcher partout, d'avoir les niveaux de sécurité semblables à toutes les autres banques et tout ça. Donc, c'est un coût assez important. Donc, on ne pouvait pas le faire ça, on pouvait pas faire ça dans notre petite cuisine et ensuite présenter ça aux investisseurs en disant bah, regardez, ça marche, c'est cool, on a quelques clients, maintenant financez-nous. Non, tout de suite, c'est quelque chose d'immense, tout de suite, c'est quelque chose de régulé, tout de suite, c'est quelque chose de contrôlé, tout de suite, c'est beaucoup de choses. Et donc, il a fallu aller chercher de l'argent parce que, encore une fois, pareil, on n'était pas, on était jeunes, pas très connus et puis aussi, on avait peut-être le défaut de ne pas être ni héritier ni d'avoir d'autres grosses sources de revenus. Donc, on n'avait pas quelques millions d'euros sur nous. Et donc, on a dû aller les chercher auprès d'investisseurs particuliers qui partagent nos valeurs et qui partagent aussi cette même vision d'un renouveau de la banque. Et donc, en effet, sur le papier, on est une équipe. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué au début parce qu'on n'a pas le réseau. Ce genre de choses se fait beaucoup sur le réseau au début. Et j'ai un ami, en effet, à qui j'avais présenté le projet et tout, qui lui était en finance et qui m'envoie une de ses newsletters internes à son entreprise, donc une entreprise en finance, un très gros acteur de la place, très implanté, avec une incroyable réputation, pas en banque, hein, un acteur financier. Et il m'envoie une newsletter interne qui dit, voilà, aujourd'hui, on aimerait mettre en interne, hein, on aimerait mettre en avant la finance verte, voilà, éduquer nos collaborateurs à cela, qui veut s'inscrire à ça, et ça, bon, bref. Et je dis, ah, c'est génial, donne-moi le mail du fondateur, qui est une personne très très connue. Et il me dit, mais jamais de la vie, je vais te faire ça. Enfin, c'est comme si on avait le stagiaire qui donnait son N plus 100, quoi. Donc il me dit non, d'accord, très bien. Et 2 semaines plus tard, il reçoit encore une fois une newsletter comme ça, parce qu'apparemment, en interne encore une fois, c'était vraiment pas de la com pour se faire mousser et tout, c'était en interne. J'étais encore en train de promouvoir donc l'impact, la finance verte et tout. Et je dis, mais donne-moi le mail, je dirais pas que c'est toi. Je dis, je te cite pas, mais donne-le-moi, je tente. Et je donne le mail et je dis à mes cofondateurs, donc Andrea et Fabien, notre CTO, ah, je suis trop bien, j'ai récupéré le mail d'un tel et tout, je vais pouvoir lui faire un mail et tout ça. Et je me souviens très bien, Fabien, Andrea qui me regarde et me dit, mais non,
jamais
c'est pas
de
ça,
la
quoi.
Vie
non,
va
mais,
te répondre.
Mais oui, ça sert à rien, tu vois. Je dis, bah, ça va me prendre quoi, 15 minutes dans ma vie. Ça peut m'apporter beaucoup. Et puis au pire, c'est comme si j'avais perdu 15 minutes, quoi. Au moins, je l'aurais tenté. J'ai une devise, c'est qu'il tente rien à rien. Donc, je le tente, j'envoie un mail. Et puis, quelques heures plus tard, au lendemain, je ne me souviens plus, je reçois un appel incroyable. En plus, je réponds. Normalement, je ne réponds pas. Et là, bonjour, Alexandra, je suis la secrétaire de monsieur. Il voudrait vous parler. Est-ce que on peut convenir d'un rendez-vous? Bah oui, bien sûr, on est convenu d'un rendez-vous, ça s'est bien passé. En plus de ça, elle nous a présenté un de ses collaborateurs, que je connaissais pas du tout de nom, mais qui est aussi une personne très connue, apparemment, de la place. Je lui ai demandé de déplaire le nom, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand j'ai dit ça, mes confrères étaient là, waouh, t'as pas fait ça, si. Et donc, on les a eus comme ça, et il y a beaucoup de choses dans l'aventure Gringotts qu'on a eues en demandant, malgré... Toujours ouais. Beaucoup de ça, mais aussi ne pas avoir d'a priori sur la réponse. Voilà, ça bloque trop de choses. Voilà, ne pas trop se poser de questions et puis surtout ne pas supposer jamais... de la réponse avant même. Voilà, demandez au pire quoi. Au pire, vous aurez la réponse non, comme vous vous y attendiez. Mais peut-être qu'il y aura une bonne surprise.
On en parlait toutes les deux, mais c'est vrai que la naïveté, un peu, ça aide beaucoup dans l'entrepreneuriat quand même. Quand c'est vraiment se laisser rêver et croire à l'impossible. Et je crois que c'est dit, ils ne savaient pas que c'était impossible et donc ils l'ont fait. Et je pense que moi, j'ai beaucoup fait ça, j'ai beaucoup profité de ça au début, en fait, de pas trop réfléchir ou confronter mes idées à des adultes, entre guillemets. Fallait juste y aller. Et en fait, le pire, c'est que souvent, ça marche, quoi.
C'est ça. C'est une expression, moi j'ai quitté l'entraînement et ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Il y a toujours cette image des premières personnes qui ont gravi l'Everest ou le Mont Blanc. Tout le monde leur a dit, faites pas ça les gars.
C'est impossible.
Bah, non, mais évidemment. Et ça l'a été pour beaucoup de gens, jusqu'à ce qu'il y ait un groupe qui y arrive.
Alors, pour continuer sur cette ligne un peu magique, dans votre parcours, quel moment a été justement magique, Lucie? Vous avez été lancée en juin 2016 et vous alliez donc vous-même démarcher les commerçants au porte-à-porte. Et le vrai moment magique, c'est quand c'est un commerçant qui est venu à vous, qui vous a contacté pour vous dire « moi, je suis intéressée par Too Good To Go ».
C'est vrai que moi, j'ai passé les premiers mois de Too Good To Go, alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie, à aller taper aux portes des différents commerçants, insister. Je ne savais même pas ce que c'était les outils typiques du commercial, d'un CRM ou de réfléchir à des éléments d'un pitch commercial. Enfin, j'y allais vraiment un peu à l'arrache, comme on dit, juste en me disant qu'il fallait que ça marche, en fait, parce que je pouvais plus supporter que tous ces produits soient jetés en fin de journée. Et donc, pendant des mois et des mois, j'étais sur mon vélo ou à pied à taper à la porte de tous les commerçants qui étaient sur mon passage.
C'est formateur en même temps.
Ah, complètement formateur, passionnant. C'est comme ça que ça m'a aidé à définir le produit aussi, parce que j'ai compris que ce qui était très important, c'était que ce soit le plus simple possible. Et donc, très rapidement, dans l'argumentaire est venu le fait que ce serait aussi simple que de jeter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le panier surprise, qui est un élément clé de Too Good To Go, il est vraiment venu du fait que j'ai compris que les commerçants ne voudraient pas du tout référencer sur l'application ce qui leur restait en fin de journée et tenir un inventaire. Pour eux, c'était une tâche de plus qu'ils n'étaient pas du tout prêts à accepter. Par contre, quand j'ai commencé à leur dire « Non mais ce sera aussi simple que de tout mettre dans un grand sac poubelle, à la place, vous répartirez ça dans 5 paniers surprises et il y aura 5 utilisateurs qui ont déjà payé en amont qui viendront récupérer leur panier juste 15 minutes avant la fermeture. » Donc ça a permis de convaincre. Mais c'est vrai que ce moment... moi, j'ai eu toujours l'impression de pousser une boule en haut de la montagne et d'attendre que quand est-ce qu'on atteint le sommet de la montagne et que d'un coup ça commence à dévaler de l'autre côté. Et je pense que ce moment pour moi, il a vraiment été symbolisé par le moment où le premier commerçant m'a contacté de lui-même. Et moi, j'ai cru que c'était une blague, en fait, quand tu te rends compte qu'il y a un premier vrai utilisateur de ton produit, c'est-à-dire que c'est ni ta mère, ni tes potes, ni quelqu'un de ta famille, et que tu te dis, attendez, c'est qui cette personne-là? Tu le connais pas? Non, moi, je le connais pas, mais ça doit être quelqu'un qui a vraiment téléchargé l'appli.
J'y crois.
Déjà, c'est assez fou. Mais alors qu'en plus, un commerçant nous contacte parce qu'il a entendu parler de nous par un de ses autres collègues commerçants, tu te dis, waouh, là, c'est assez incroyable.
Au fin fond de la France, en plus.
Exactement. Et aujourd'hui, on est vraiment présent dans toute la France et dans des bleds, mais où jamais on est allé. Et on se rend compte. Et moi, j'adore quand aujourd'hui, je passe l'intégralité de mes vacances en France. Et à chaque fois, je me retrouve dans des endroits, des communes de 700 habitants. Et je vois que la boulangerie du village, elle est sur Too Good To Go et qu'elle nous a même demandé d'avoir son petit autocollant pour mettre fièrement sur sa vitrine. Je trouve ça juste incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a plus de 1000 qui nous contactent chaque mois en France pour rejoindre l'application. Et je me dis que c'est totalement hallucinant. Moi, avant, je pouvais même pas contacter 1000 commerçants de moi-même chaque mois. Aujourd'hui, on a 1000 qui nous contactent et on a 11 collaborateurs chez Too Good To Go dont le métier à 100% du temps, c'est de répondre aux commerçants qui nous contactent pour les mettre en ligne sur la plateforme. Donc c'est vrai que ça fait plaisir et c'est là vraiment que tu commences à avoir un mouvement de masse et tout le monde qui s'y met. Et justement, quand on pense aux 3 repas chaque seconde qui sont sauvés sur Too Good To Go, c'est fou quand on compare à... Moi, il y a 6 ans, je les comptais à la main, les repas sur Too Good To Go, et c'était une tâche à part entière de se dire à la fin de la journée, bon ben on va aller compter le nombre de repas qu'on a sauvés aujourd'hui, et on était à 74, et je me rappelle le jour où on a passé les 100, c'était incroyable, et aujourd'hui c'est plus de 300 000 repas qui sont sauvés chaque jour dans 17 pays dans le monde, donc c'est assez vertigineux effectivement, et ça donne un peu le vertige de temps en temps.
Et en plus vous aviez mis, quand vous faisiez le porte-à-porte auprès des commerçants, vous aviez mis votre numéro de téléphone sur les flyers.
C'est ça, j'ai fait la bêtise d'imprimer 30 000 flyers avec mon numéro de téléphone personnel, donc aujourd'hui il y a... Mon téléphone sonne à peu près, je pense, 5 fois par jour. Il y a des gens qui m'appellent parce qu'en fait, mon numéro est juste complètement dispo.
C'est encore ton numéro ?
Je devrais arrêter de le dire. Bah, en fait, c'était vraiment... J'ai eu qu'un numéro de toute ma vie et j'ai fait la bêtise de l'imprimer sur 30 000 flyers au début, quoi. Donc voilà, si vous m'entendez, ne faites pas ça. Et si vous m'entendez aussi, ne m'appelez pas par téléphone. Écrivez-moi un mail parce que je n'en peux plus. Et j'essaie de rester aimable à chaque fois, mais ça devient de plus en plus difficile.
Et le deuxième commerçant qui a cru en vous, qui vous a contacté, c'était prestigieux.
Hyper prestigieux, c'est le moment où la Tour d'Argent nous contacte, qui est vraiment un restaurant très connu à Paris et vraiment un restaurant gastronomique. Et en fait, ils venaient d'ouvrir leur boulangerie de la Tour d'Argent, qui fait d'ailleurs les meilleurs
c'est
petits pains, si vous ne l'avez pas goûté et que vous êtes parisien.
Toutes les semaines, tous les dimanches matin,
n'hésitez
je vais à la
pas.
Boulangerie
ouais,
là-bas, je confirme, c'est
assez
très
canon.
Bon, ouais.
Et effectivement, c'était André Terraille, qui est du coup le directeur général de la Tour d'Argent et petit-fils du fondateur, qui m'a appelé. Et moi, j'y croyais pas, quoi. Je croyais que c'était une blague. Et effectivement, il était juste complètement convaincu par l'initiative et déterminé à ce que les petits pains délicieux de la Tour d'Argent ne finissent pas à la poubelle.
Un des meilleurs restaurants parisiens.
Complètement. Et aujourd'hui, c'est encore un de nos fidèles partenaires. Et André est devenu un ami d'ailleurs par la suite, parce qu'on partage aussi beaucoup de valeurs sur comment est-ce qu'on pense le système alimentaire de demain. Donc merci à lui d'avoir cru en nous dès le début. Et puis, si vous arrivez à récupérer un panier Too Good To Go de la Tour d'Argent, ça vaut vraiment le détour, donc n'hésitez pas.
Et vous, Maud, votre moment magique, c'est le jour du lancement. Vous aviez déjà 10 000 préinscrits sur la plateforme, donc 10 000 personnes intéressées pour ouvrir un compte courant chez vous. Et le jour du lancement, évidemment, vous ne pouvez pas ouvrir à 10 000 personnes en même temps un compte. Donc, vous inventez tout un système ingénieux. Et comment ça se passe ?
Alors oui, donc le jour du lancement, donc après de longs mois, voire années à attendre, on avait donc beaucoup de personnes qui attendaient leur compte Gringle, parce qu'on est très proactif sur les réseaux et du coup on avait déjà une très belle communauté qui nous attendait très fidèlement depuis un petit bout de temps et très très peu de temps en fait, 7 jours avant de savoir qu'on allait ouvrir, même nous-mêmes, hein, on dit on ouvre dans 7 jours. Parce qu'on a enfin tous les feux verts de la tech et tout ça. On avait les autorisations depuis longtemps. Mais après, il faut créer une application bancaire. Donc, c'est évidemment un long travail aussi. On a une équipe d'une dizaine de personnes à temps plein qui fait ça tout le temps. Mais bon, voilà, on voulait la tester dans tous les sens et vraiment être sûr de notre coup. Et du coup, on dit, on sort dans 7 jours. Vous êtes beaucoup à attendre votre compte. Combien de personnes voulaient vraiment ouvrir son compte le jour J ? Ça, on ne savait pas. Ce qu'on savait en tout cas, c'est qu'on ne pouvait pas ouvrir 10 000 comptes le jour J. Pourquoi ? Quoi, tout simplement à cause de la régulation bancaire, du contrôle du blanchiment d'argent, du contrôle de ce qu'on appelle le Know Your Customer, donc comment est-ce que tu ouvres un compte, évidemment il faut ta carte d'identité, tout ça, enfin bon, bref, tout ça c'est beaucoup beaucoup de travail, 10 000 personnes onboardées en un jour, c'est pas possible. Donc pour permettre l'ouverture d'un compte aux personnes les plus motivées qui attendaient vraiment leur compte Gringotts, on a fait un système de code, un peu comme Clubhouse, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros il fallait avoir un petit code pour pouvoir ouvrir l'application et vraiment s'inscrire. Et ces codes, on commence à les cacher dans notre newsletter parce que nous sommes... Voilà, on a gardé notre âme d'enfant, on aime bien...
Donc une chasse au trésor pour avoir un code, pour avoir la chance d'ouvrir
exactement.
Un compte en banque le jour J.
Que ce soit le plus équitable possible, on l'a caché un peu partout, vous pouviez en trouver. Et en fait, chaque code... Enfin, en gros, c'est comme si on avait caché un code qui était valable 300 fois. Il y avait 300 personnes qui pouvaient ouvrir leur compte. Et donc, le jour J, on dit, on ouvre un mercredi, je me souviens, un mercredi 20 avril, qu'aux personnes préinscrites, hein, et on leur dit, ça sera 9h01. Et là, on commence à avoir beaucoup de messages hein, de personnes qui disent « Bon, je me suis calé une réunion à 9h01, enfin dans mon pro, comme ça je suis sûre que j'ai le temps, je me suis mis 4 réveils et tout. » Genre « Waouh !» ok, quelle excitation pour un compte bancaire. Ça, vraiment, c'est très cool. Et donc le jour J, à 9h01, on ouvre. Et là, c'est un vrai raz-de-marée. C'est-à-dire qu'on a plus de 2000 tentatives d'ouverture de compte en une minute. Ce qui est énorme. Et moi, je m'y attendais pas forcément. Je m'attendais évidemment à un vrai succès. Mais là, on était au-delà de toutes les expériences. On avait fait quelques paris en amont à 8h30 avec mon équipe. Et même les paris les plus audacieux n'arrivaient pas à ce genre de résultats. Et donc, je me souviens très bien, 2000 tentatives. Une personne qui a testé pendant plus de 45 minutes tous les codes possibles en essayant de deviner la combinaison et tout. Enfin, vraiment,
non, mais il faut lui offrir un mois gratuit.
On leur a donné des codes. On est vraiment allé chercher. On leur a dit, écoute, tiens, un code. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et je me souviens de cette montée d'adrénaline le jour J. Moi, j'ai dû aller faire un tour après. Je me suis dit, ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et voilà, c'était un très beau moment dont on se souviendra encore très longtemps.
Est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment difficile que vous avez dû affronter? Donc, à l'inverse du moment magique, Lucie, vous, c'est évidemment le Covid, au moment où tout ferme du jour au lendemain. Comment vous faites? Parce que vous avez à l'époque 780 salariés. Comment ça se passe pour vous?
C'est pas simple. Je pense qu'effectivement, c'est la première fois qu'on est vraiment en difficulté et qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on va se sortir de ça, quoi? En fait, je me rappelle, c'est l'Italie qui ferme d'abord. Et donc, on s'organise et on réfléchit et on se dit, s'il y a scénario plausible, un pays qui est pareil que l'Italie, qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, on est dans 14 pays. Et s'il y a trois pays qui sont comme l'Italie, scénario catastrophe, qu'est-ce qui se passe? En fait, une semaine plus tard, on a la totalité des pays qui sont dans le même scénario que l'Italie. Et donc, nous, en une semaine, on perd 70% de notre chiffre d'affaires, puisque tout simplement, l'intégralité des commerces ferme. Il reste les supermarchés qui sont ouverts, mais les supermarchés, ils sont en totale rupture de stock. Donc clairement, pour une fois au moins, ils n'ont pas de gaspillage alimentaire. Et au contraire, ils n'ont pas du tout envie d'avoir de nouveaux clients qui viennent dans leur magasin. Ce qui sont un peu les deux arguments phares de To Go, c'est réduire le gaspillage alimentaire et générer un nouveau flux de clients. Là, clairement, c'est plus très pertinent. Et donc à ce moment-là, effectivement, nous qui avions des problématiques de comment est-ce qu'on recrute plus de gens, plus vite, comment est-ce qu'on lance plus de pays?
Oui, parce que vous étiez en hyper-croissance, hein, je crois. En 2 ans, vous avez eu 250 salariés, en 3 ans, 500, en 4 ans, 800, enfin, ce qui paraît dingue.
Ouais, c'est assez dingue, je confirme. Mais surtout, en fait, on se disait qu'en termes de cash, on était aussi, selon nos prévisions, et on était, à chaque fois, on se disait, bon, bah, on va prévoir dans le pire des cas, etc. Si en fait, on ne fait pas nos objectifs de cette année, mais qu'on fait peut-être 20% de moins d'objectifs, ça voudrait dire vraiment que ça a été une année difficile, mais on arrivera quand même toujours à payer les salaires. Et je me rappelle, c'était Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, qui m'avait dit qu'il fallait plutôt prévoir au moins 18 mois de cash pour pas se mettre en difficulté, etc. Donc on était hyper serein, en fait. Sauf qu'on n'avait absolument pas prévu qu'on puisse perdre 70% de notre chiffre d'affaires
personne.
En une semaine. Effectivement, je pense que là, personne ne l'avait prévu. Et puis en plus, moi, j'avais quasiment un pied dans l'avion puisque je partais lancer les États-Unis. Et normalement, le 28 février, c'était la date qu'on avait définie, le 28 février 2020, pour le lancement des États-Unis qu'on préparait depuis plusieurs mois, voire années. Donc clairement, je ne suis pas partie aux États-Unis le 28 février. Et au contraire, je me suis retrouvée, moi aussi, confinée dans une chambre à travailler juste vraiment nuit et jour pour le coup, parce qu'en plus mes collègues avaient des enfants et donc la journée ils étaient confinés avec leurs enfants, et donc pour parler de comment est-ce qu'on sauve la boîte, il fallait attendre 20 heures en gros. Et donc finalement on se dit ok, en fait c'est quoi les leviers pour réduire au maximum les dépenses et juste sauver les emplois et continuer à faire notre job, quoi. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a listé les leviers. Donc forcément tu peux arrêter les campagnes marketing, de toute façon quand tout le monde est confiné, personne n'a envie de parler de aller récupérer votre panier pour lutter contre le gaspillage. Donc ça, c'était un levier facile à arrêter. Les États-Unis, en fait, on va pas y aller. Donc on recule au moins de 6 mois le lancement. Donc là, c'est pareil, ça nous fait un levier pour économiser de l'argent. Mais en fait, tout ça, ça suffit pas quand tu perds 70% de ton chiffre d'affaires. Et donc nous, on était toujours restés loin des fonds d'investissement en se disant, on veut protéger notre ADN. On a la chance de générer un chiffre d'affaires assez conséquent qui nous permet de pouvoir rémunérer nos salaires en s'appuyant uniquement sur des investisseurs privés. Sauf qu'à ce moment-là, tout change. Et donc, c'est le moment où on avait quand même beaucoup de fonds d'investissement qui étaient venus nous voir, à qui on avait toujours dit non.
Avec une valo forte, une valorisation de la boîte forte,
avec une valorisation importante. Et on avait toujours eu le luxe de pouvoir s'autoriser à ne pas lever de fonds. Mais il y en avait quand même un qui m'avait toujours beaucoup plu, Alexandre Mars, qui est un entrepreneur et philanthrope assez inspirant, qui partage beaucoup de valeurs communes avec nous, qui lui avait eu l'audace de se dire bah, mon fonds d'investissement, je vais le certifier B Corp. B Corp, c'est une certification internationale qui permet de se dire, il ne s'agit pas seulement de qu'est-ce qu'on fait, mais c'est aussi comment on le fait.
Et on en a parlé dans l'épisode précédent avec Elisabeth Laville.
Parfait, donc vous saurez ce que c'est, et sinon allez écouter l'autre épisode. Mais j'avais trouvé ça assez, assez culotté de se dire, on fait un fonds d'investissement, on est dans de la finance, mais on le fait selon les valeurs B Corp. Et puis je savais qu'il me posait toujours des questions différentes des autres investisseurs. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone en lui disant,
au secours.
Je sais que le monde entier vient de s'écrouler, mais si tu veux investir chez Too Good To Go, c'est peut-être l'occasion. Et encore une fois, c'est là que c'est dans les moments de difficulté que tu vois qui sont les vrais qui te soutiendront quoi qu'il arrive. Et il a dit, ok, c'est parti. Et je pense que 3 semaines plus tard, il investissait plusieurs de millions d'euros chez nous. Et ça nous permettait de conserver l'intégralité des 780 emplois chez Too Good To Go. Alors, une valo qui était à peu près un tiers de la valorisation qu'on avait.
C'est le jeu.
Mais on se disait que dans le monde actuel, voilà, il faut savoir pourquoi, en fait, tu es à la tête de ta boîte, qu'est-ce qui compte pour toi. Et moi, clairement, ce qui comptait, c'était un, de protéger les salaires, et deux, de pouvoir, le jour où les commerçants réouvraient, se remettre dans une dynamique de réduction du gaspillage alimentaire. Et donc, pour ça, il fallait que les collaborateurs soient là aussi. Et donc, finalement, à ce moment-là, la valorisation importait peu. Et ce qui était important, c'était d'avoir les bons partenaires. Et Bliss, le fonds d'investissement d'Alexandre Mars, était vraiment, et ça s'est confirmé par la suite, le bon partenaire. Et puis, de montrer à nos salariés qu'ils pouvaient nous faire confiance aussi en moment de crise. Et donc, on a réussi à faire tout ça. Et dès que les commerces ont réouvert, Too Good To Go est reparti à toute allure. Et on a même pu lancer les États-Unis 6 mois plus tard. Donc c'était finalement la bonne décision à prendre à ce moment-là. Mais c'était clairement pas facile.
Et avec 30% de consommateurs en plus depuis le Covid. Hein.
Complètement. Depuis le Covid et puis depuis la crise d'inflation qui est assez énorme et qui concerne le pouvoir d'achat de plus en plus de gens aujourd'hui.
Maud, votre moment difficile, c'est quand vous réalisez qu'en plus de créer une banque, qui est quand même déjà une sacrée montagne à gravir, il va falloir définir ce qu'est le vert, ce qu'est l'investissement vert, parce que finalement, il existe plusieurs labels, mais aucun n'est parfait. C'est-à-dire qu'on peut produire des énergies fossiles et malgré tout être labellisé vert. En tout cas, il y a des passerelles. Comment vous faites ? Comment ça se passe pour vous ?
Alors, évidemment, ce n'est pas le seul moment de difficulté hein, qu'on a eu. Je dirais que c'est la grande désillusion qu'on a eue, mais on a eu aussi beaucoup d'autres moments longs, tendus et durs, que ce soit avec justement le Covid, que ce soit avec les régulateurs bancaires, les autorisations, plein de choses. Mais en effet, je dirais que là où on a eu une grande désillusion, c'est qu'on est parti avec l'idée qu'il existe une finance verte, qui aujourd'hui n'est pas encore assez poussée. Pourtant, elle est là. La finance, l'argent régit le monde. On pourrait orienter les fonds vers justement cette finance verte et faire en sorte que la transition advienne et surtout de limiter le changement climatique. Alors, j'ai lu beaucoup de choses finalement et de documents dans ma vie, mais quand on ouvre les rapports et les documents sur ces finances vertes, on se rend compte qu'elles n'ont de vert vraiment que le nom. Pour beaucoup d'entre elles. Alors, dans la finance verte, il y a des choses qui sont vraiment vertes, mais il y a aussi des choses qui sont pas du tout vertes. Et en fait, j'ai un peu l'impression que, au lieu d'avoir fait un cadre strict dans lequel les financiers vont devoir adapter leurs produits pour vraiment qu'elles rentrent dans le cadre, il y a des institutions qui sont venues dire que ceci est vert en mettant un grand nœud élastique très malléable autour de tout ce qui se faisait déjà dans la finance. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail pour nous, évidemment, parce qu'on ne peut du coup pas se reposer sur ces tampons de la finance verte, parce que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est pas de vendre plus de finance verte. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est absolument essayer de changer le cours de ce qui est en train de se passer via la finance. Et donc d'avoir un réel impact, en tout cas le plus possible, avec les outils qui nous sont donnés via la finance. Par exemple, on va prendre un fonds qui est labellisé vert. Donc dans un fonds, il y a plein d'entreprises. Le gestionnaire de fonds dit, voilà, ça c'est notre fonds pour financer la transition, pour faire les choses bien. Et quand vous ouvrez, vous avez du BNP, du Total, de l'ExxonMobil, de l'Airbus, enfin toutes ces choses-là. Et là on se dit, ça m'a l'air d'être quand même beaucoup le vieux monde, tout ça. Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose d'un peu mieux ? Non, c'est très bien, c'est noté, c'est trajectoire de degrés et tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des fonds aussi qui respectent bien leur définition. Par exemple, les fonds trajectoire de degrés, de degrés de réchauffement, quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur des fonds, on se rend compte qu'il y a du Google, du Meta, donc du Facebook, du Salesforce, des choses comme ça, qui sont des logiciels. Alors oui, intrinsèquement, ça n'émet pas beaucoup de CO2. En revanche, est-ce que c'est ça qui va faire qu'on aura une transition ? Non, pas forcément. Nous, on veut investir dans des choses qui vont faire la transition, comme par exemple de l'infrastructure lourde ferroviaire, parce que développer le ferroviaire, sur le moment, ça émet du CO2, mais ça va permettre un report modal, un report d'usage de l'avion, de la voiture vers le ferroviaire. Donc il faut en prendre en compte ce qu'on appelle un scope 4. Ce qu'on veut financer, c'est les énergies renouvelables. Oui, mais les énergies renouvelables, ça pollue, c'est fait en Chine, il y a besoin de terres rares et tout. Oui, mais c'est toujours mieux que du charbon, du pétrole, du gaz. Donc c'est toujours arbitrer entre des choses vraiment pas bien, des choses un peu moins bien. Évidemment, donc on a les compétences en interne dans l'équipe pour faire ces
donc
études.
Donc vous prenez un par un.
C'est un travail de fourmi.
Les fonds, les investissements, c'est ça. Vous checkez, vous dites est-ce que oui, c'est bon, non, c'est pas bon. C'est un travail, ça a duré combien de temps ?
C'est toujours en cours, hein. C'est un travail qui s'arrêtera jamais, puisque les fonds sont pas écrits dans le marbre non plus, donc ils peuvent changer. Et on a annoncé il y a quelques semaines la création de notre conseil sociétal et écologique, donc justement avec des personnes. Alors là, on a annoncé des grands noms scientifiques, donc aussi un co-auteur du GIEC, des personnes spécialisées dans tous ces sujets-là. Mais l'idée, c'est aussi de l'ouvrir à des personnes de la culture, à des personnes de l'entrepreneuriat et tout, pour avoir un petit peu ce melting pot de à quoi va ressembler un monde net zéro. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire exactement à quoi va ressembler ce monde. Est-ce qu'il faut tout mettre sur l'éolien ? Est-ce qu'il faut tout mettre sur la fusion pour essayer de l'accélérer ? Est-ce qu'il faut tout mettre sur autre chose ? Ça va être évidemment un mélange et un équilibre à trouver. Et, il ne faut pas mettre tout son argent sur une chose, mais c'est évidemment des questions très importantes à se poser, des arbitrages très importants à faire. Et c'est pour ça qu'on a créé ce conseil pour éclairer nos choix au mieux.
Et est-ce que parfois vous êtes senti découragé en voyant la montagne de plus qui s'ajoutait à vous ?
Ah oui, évidemment, quelquefois. Il ne faut pas essayer de regarder le sommet directement. Il faut y aller étape par étape, petit plat par petit plat. Voilà, donc c'est mon objectif court terme. Je check. OK, ensuite et tout. Si j'avais commencé dès le départ, que j'ai commencé à 25 ans à faire Gringotts, enfin, devant la tâche de créer une banque comme un jour BNP ou Société Générale, je me suis dit c'est pas possible, et de fait ça aurait été très compliqué. Mais si je commence par Néobank, ensuite on ajoute l'épargne, ensuite on ira chercher l'autre niveau de licence, ensuite on ira chercher ce niveau de licence là, enfin voilà, il faut diviser pour mieux régner, on y va petit à petit,
on liste les fonds verts, etc. c'est ça
petit à petit. Mais alors on n'est pas parfait non plus, hein. L'idée, c'est quand on est très militant et convaincu justement par ce qu'on fait, de se rendre compte que la perfection n'est pas atteignable, qu'elle ne le sera pas dans le système aujourd'hui qu'on nous offre. Nous, on a pris le parti de se dire qu'on n'a a priori pas le temps que le système coule et qu'un autre émerge. Beaucoup de choses vont jouer dans les années qui arrivent. Donc, on a pris un parti plus pragmatique en disant on va jouer avec les armes qu'on nous donne et les outils de ce système. Et évidemment, on se rend compte que la perfection sera dans tous les cas pas atteignable, mais qu'il faut toujours vouloir faire beaucoup mieux que ce qu'il y a déjà.
On va passer au portrait chinois. Si vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Maude ou la Lucie de 20 ans vous dirait en vous voyant, en voyant tout ce que vous avez accompli ?
Moi, elle me dirait « Mais pourquoi t'es en banque ? Tu en finance ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Explique-moi. »
Lucie ?
Moi, je pense qu'elle me demanderait ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et comment est-ce que j'y vais ? Parce que je pense qu'on est, il y a beaucoup de regards autour de nous, du coup, de plus en plus. Et c'est hyper important de s'émanciper, en fait, du regard des autres et de rester connecté à soi-même et de se dire où est-ce que maintenant, toi, tu veux aller, vraiment. Et parfois, on oublie cette petite voix interne et je pense que c'est important de l'écouter toujours.
On n'est jamais aussi autant puissant ou puissante que quand on est vraiment aligné avec soi-même. Hein.
Complètement.
Un encouragement qui vous a donné des ailes ?
Ma mère, oh vas-y, ma fille, elle est géniale, fais tout ce que tu veux. Et même mon père, un peu à sa manière. Mon père n'a pas compris que je ne fasse pas médecine. Mon père aussi était médecin. Mais à sa manière, il m'a beaucoup aidée aussi. Donc, en tout cas, il ne s'est pas opposé. Voilà.
Je pense que le regard de ses proches, c'est tellement important. Et le fait de sentir que, en fait, c'est pas très grave, va où t'as envie d'aller et au pire, t'apprendras. Je pense que c'est cette espèce de, d'amour inconditionnel qu'on l'a de ses parents ou de ses proches, mais de se dire que, en fait, faut se faire confiance et faut aller où on a envie d'aller. En fait. Moi, je me rappelle toujours d'une phrase de mon père où j'étais en prépa et je me plaignais d'avoir autant de travail et j'en souffrais un peu de me dire je fais plus que ça, etc. Et lui m'avait dit, mais alors arrête de travailler. Et en fait, et pour moi qui a toujours été une bosseuse qui bosse énormément, je trouvais ça assez, ça m'a donné du courage en fait de me dire oui, bah, c'est vrai qu'au pire, je peux aussi travailler moins quoi, et ça va pas être la fin de ma vie. Donc je pense que c'est, en fait, quand on se plaint d'une situation, il faut se poser la question de, qu'est-ce qui se passe si j'arrête ? Et parfois, il se passe pas grand-chose.
Ce qui vous ressource ?
Moi, je dirais, bah là, comme ça, ce qui me vient, c'est la Bretagne, parce que j'adore cette région.
Évidemment.
Et la nature, de manière générale, en fait. C'est tellement, moi qui nage dans l'océan, sans rien d'autre autour de moi, c'est tellement, waouh, ça répare tout.
Ouais, moi, on enregistre là, à Paris, dans un petit quartier de Belleville, rien que arriver, voir du vert, entendre le chant des oiseaux. Moi, actuellement, je suis réveillée tous les matins par le camion poubelle. Et alors qu'à Dijon, j'ai un papa inconditionnellement amoureux du chant des oiseaux et qui nous a dit que toute notre vie, que le vrai luxe, c'était le silence. Je me rends compte qu'une balade en forêt où on voit vraiment rien, genre pas un seul truc bétonné, pas une seule trace humaine, et voir juste le reflet de la lumière passer entre les feuilles. Écoutez, ah ouais, je suis une très grande contemplative, hein. Ça me ressource énormément. Après, un gros câlin aussi avec ma famille, c'est cool, bien. Et mon gros chien aussi.
À quoi avez-vous renoncé pour votre vie d'entrepreneur ?
Moi, un équilibre vie pro, vie perso. En ce moment, je ne suis pas très forte à ça. Ça va aller, je pense, après avoir atteint un premier palier un petit peu plus stable. Mais à un niveau de vie perso, un peu au niveau du sport, de tout ça, qui a été... j'ai tendance, quand je me mets dans un projet, à mettre à 100% et oublier que c'est très important aussi les à côté pour pouvoir encore plus performer dans ce projet.
Je rejoins un mot de là-dessus, c'est vrai qu'il y a... Enfin, au début, il faut bosser comme un malade et tu comptes pas tes heures et tu comptes pas les week-ends. Et en même temps, c'est presque une drogue, quoi. C'est tellement enrichissant comme aventure que t'as pas envie de faire autre chose. Alors que tu te rends compte au bout d'un certain moment que c'est hyper important de faire d'autres choses. Et moi, là, comme ça, je dirais, j'ai un peu renoncé au moment de pause. Et en fait, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à construire qu'on peut ne jamais s'arrêter. Et au bout d'un moment, ça devient presque contre-productif parce qu'on se rend compte que quand on se force à prendre une pause, finalement, on revient, mais avec d'autant plus d'énergie, d'inspiration. Et donc moi, c'est un peu mon gros travail en ce moment, c'est d'essayer de me forcer à faire des pauses. Pour l'instant, je suis encore très mauvaise, mais j'ai bon espoir.
Toujours du travail, en fait. Quand on se dit j'arrête quand il n'y a plus de travail, il y aura... Toujours du travail.
C'est ça.
L'engagement peut cramer parce que justement, ça ne s'arrête jamais.
Bah, et oui, il faut faire attention à ne pas commencer à haïr son projet quand on en mange trop. Donc
Puis non, bah, haïr le chocolat, ça. La discipline de vie qui vous sauve. Si vous en avez une, hein, vous n'êtes
pas... Moi, j'ai une nouvelle petite discipline de vie que je trouve très bien, que je souhaite partager. C'est juste l'idée de mon premier regard le matin quand je me réveille, que ce ne soit pas pour mon écran de téléphone, mais que ce soit de regarder le ciel, en fait. C'est bête, mais c'est quelqu'un qui m'a expliqué que, en fait, quand on regarde le ciel et la lumière du jour, il y a toutes nos hormones de journée qui s'activent. Et en fait, le cerveau comprend qu'on va passer d'un état de sommeil à un état de journée active. Alors qu'en fait, quand on se réveille en regardant son téléphone, ce que j'ai vraiment fait pendant beaucoup d'années, et je pense que beaucoup d'entre nous le font, le cerveau comprend pas vraiment ce qui se passe, en fait. Et derrière, on met beaucoup plus de temps à se sortir. Et en fait, moi, je me force justement à me lever et à aller regarder le ciel. Et ça dure mais 10 secondes, mais en fait ça change ma journée. Et après je prends mon téléphone et je commence les mails, etc. Mais ces 10 secondes, elles font du bien à mon cerveau. Elles me réjouissent un peu d'avoir cette petite discipline de vie qui est simple à mettre en place et qui change vraiment la donne, quoi.
Moi je vois mon voisin si je vais à la fenêtre. Donc j'ai pas encore ça. Mais ça fait un petit moment que je m'interdis à regarder mon téléphone en première chose dans le lit. Parce qu'en fait si je tombe là-dedans, je reste une demi-heure de plus. Et où est le temps temps est passé, je ne sais pas. Donc, j'essaie de me lever rapidement. Et en ce moment, alors en ce moment, ça fait 3 semaines, j'ai commencé le yoga. Voilà, donc j'essaie de... J'ai souvent des douleurs au dos, donc je m'assouplis un petit peu. Je retrouve ma jeunesse, c'est agréable.
Ouais, les salutations au soleil le matin de yoga, c'est un passage obligé aussi. Et ça fait beaucoup de bien, je confirme.
Un bonheur. De quoi n'avez-vous plus peur ?
Je pense oser et me dire que j'ai rien à perdre et y aller au culot, je pense que c'est... En fait, je me suis jamais retrouvée vraiment dans une situation pas souhaitable en y allant au culot. Et bon, j'hésite encore moins à le faire qu'avant.
Alors moi, j'ai eu la chance de jamais vraiment avoir hésité au niveau du culot. C'est vraiment quelque chose que je me rends compte que depuis que je suis toute petite, il y a un truc qui me plaît pas, je le dis, un truc que je veux faire, je le dis. Mon père est vraiment comme ça. Par contre, je me suis rendu compte qu'un des plus gros freins que j'avais au début, notamment parce que je suis en charge de la communication et tout, donc d'incarner un peu le projet, c'est du ridicule. C'est vraiment que les gens se moquent de moi, se moquent de toi. Et donc, quand tu commences un projet qui est en plus aussi ambitieux ou qui a suscité aussi beaucoup de moqueries, j'avais très, très peur et ça m'atteignait en fait directement. Et en fait, quand j'ai compris qu'il fallait juste que je dépose mon ego à côté ou que je lui dise au revoir et qu'avoir beaucoup de likes ne faisait pas de moi une personne bien, mais avoir peu de likes aussi ne faisait pas de moi quelqu'un de pas bien et de déprécié, ça a changé ma vie. Donc, parce que qu'est-ce que les gens vont dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais en fait on se rend compte très rapidement que les gens ne pensent pas à vous ou à moi. Personne ne me regarde, m'a regardé en me pointant du doigt et en se moquant de moi. En fait, les gens n'en ont rien à faire. Donc il faut juste avoir ça en tête et se rendre compte que les ridicules ne tuent pas du tout. Voilà.
Dernière question, qu'avez-vous accepté de la vie ?
Qu'elle allait passer, qu'il fallait en profiter. Peut-être un truc plus joyeux pour toi, peut-être ?
Non, j'allais dire qu'elle était... que c'était hyper riche, la vie, et peut-être à tous les sens du terme, mais c'est très intense. Et il faut à la fois profiter de cette intensité et de se dire qu'il y a tellement de choses à vivre, à apprendre, à rencontrer. Et en même temps, c'est presque oppressant de temps en temps, tellement il y a de choses à faire. Donc voilà, faut trouver le juste milieu entre une vie pleine de richesses à tous les sens du terme, mais aussi de pas vouloir tout faire, parce que c'est pas possible, quoi.
Je me disais aussi avec ce que je pense que tu vis aussi, Lucie, on commence à être vraiment sollicité, à être invité, tu vois, dans des palaces, on m'invite à prendre des jets et tout, enfin vraiment des trucs. Et on se rend compte que ce qui avait pu être un rêve autrefois, hein, en se disant je vais être heureuse quand j'aurai atteint ce genre de situation, on se rend compte que ce qui nous rend heureux sont les plaisirs les plus simples et que c'est très important de les garder et d'être dans des journaux, d'être invité à la télé, d'être reconnu dans la rue. C'est quelque chose de très agréable pour le projet évidemment, mais que c'est pas quelque chose qui rendait plus heureux ou plus malheureux et que le bonheur était vraiment ailleurs et pas dans ce côté réussir dans la vie est vraiment différent de réussir sa vie et que c'est pas un ego très nourri qui allait apporter plus de bonheur.
Ça c'est sûr. Merci Maud Caillot, merci Lucie Bache, merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci à Camille Codor, Paul Berthiaud, Marie Jaworski et Lisa Grenet. Merci à Sandrine Dao, Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.